Chères chouquettes du monde entier, vous est-il déjà arrivé de vouloir tout plaquer ? De quitter votre job pour aller faire le tour du monde à pied ou pour vous consacrer à ce livre que vous rêvez d'écrire depuis toujours ? Avez-vous déjà décidé d'arrêter clopes, alcool et sorties effrénées d'un coup pour vous mettre au sport, dormir tôt et bien manger ? Vous savez, toutes ces décisions prises sur un coup de tête dont on pense qu'elles vont enfin nous apporter le bonheur qui nous manque. Chez certains, on n'y voit pas plus qu'un comportement un peu intense, un trait de personnalité anecdotique. Mais pour d'autres, c'est le signe d'un trouble, d'une pathologie. C'est le cas de Solal, le héros du tout premier roman de Louis Vandel, Solal ou la chute des corps, diagnostiqué bipolaire de type 2. Mais qu'est-ce qui nous différencie réellement de Solal ? Où se situe la limite entre les fous et les bien portants ? Et surtout, pourquoi le roman, plus que le discours médical, est-il apte à nous apporter meilleures réponses ? C'est les questions que soulève Solal ou la chute des corps, et pour y répondre, je reçois aujourd'hui son auteur, Louis Vandel. Ne prenez que vos oreilles, c'est le temps des chouquettes.
Le temps des chouquettes. Une émission pour les écrivains et les écrivaines.
Un temps sucré et suspendu pour comprendre ce qui les a poussés à écrire. Un temps finalement très chouquette pour revenir avec eux sur leur relation à l'écriture, mais surtout pour les faire parler d'eux, de leur part d'insolites et de leurs anecdotes personnelles, et ce, grâce au pouvoir désinhibant de la chouquette. Alors suivez-moi pour découvrir le fabuleux destin des chouquettes de la littérature française d'aujourd'hui.
Le temps des chouquettes, une émission de Théo Potier, un samedi sur 4 à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Bonjour Louis Vandel.
Bonjour.
Bienvenue dans le temps des chouquettes et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un jeune auteur de 29 ans et vous venez de publier votre tout premier roman, Solal ou la chute des corps, aux très belles éditions du Seuil. Mais vous êtes d'abord un journaliste passionné par les liens entre l'actualité et la littérature. Depuis 5 ans, vous êtes directeur de la publication de la lettre Zola, un média d'information où des écrivains racontent des faits de société à travers des récits littéraires. Les textes, la littérature vous intéressaient, mais vous n'aviez a priori pas le projet de devenir écrivain. Et puis il y a eu cette histoire d'amitié avec Solal qui a tout changé. À quel moment vous vous êtes dit « il faut que j'écrive cette histoire » ?
C'est un moment très particulier, assez mystérieux, une sorte d'épiphanie, de révélation nocturne. En fait, un soir, alors que Solal avait déjà commencé son tour du monde à pied, en fait, je me suis réveillé en pleine nuit avec cette idée qui m'est apparue d'écrire ce bouquin. Et j'y avais jamais songé avant, et j'avais jamais vu Solal comme un potentiel personnage, un potentiel héros de roman ou de récit. Et puis voilà, ça m'a pris à 3h40 du matin, je crois, je lui ai écrit « Est-ce que tu veux que j'écrive un livre sur toi ?» Il m'a dit oui, et puis ça a démarré comme ça.
Pourquoi avoir choisi la forme du roman pour raconter une histoire vraie ?
Je crois que le langage littéraire, donc la façon de restituer des histoires avec du style ou avec une sorte de détail dans l'écriture qui permet des descriptions plus fines, en fait, a un intérêt très concret, c'est que ça nous permet d'aller plus loin dans la perception des états d'âme. On peut aussi décrire, étirer le temps et décrire des actions de façon plus détaillée. Et puis, l'autre chose, c'est que je crois aussi que ce langage littéraire il rend la lecture plus prenante. Et donc, il permet au lecteur de se laisser embarquer dans une histoire, dans un récit. Et donc je crois que au-delà du plaisir que ça peut procurer de lire un récit de ce type-là, ça a vraiment un intérêt concret, parce qu'en fait, comme on s'identifie au personnage, je crois que ça permet de mieux le comprendre.
Oui, vous parlez d'identification, mais le roman, il permet aussi de vous désaxer aussi un petit peu de la problématique strictement médicale, parce que bien sûr, il y a l'explication médicale qui éclaire en partie le comportement de Solal, mais dans le roman, vous semblez également explorer une autre piste, en tout cas le roman vous permet peut-être de l'explorer, en soulevant implicitement cette question, est-ce qu'on peut être une âme errante, en quelque sorte, tout en faisant partie de la société, ou est-ce que ça nous en exclut forcément, puisque Solal, à un moment donné, va partir faire ce tour du monde, et au fond, ce qu'il caractérise comme personnage, c'est peut-être plus cette âme errante-là que sa bipolarité.
Ouais, alors, est-ce que sa bipolarité, quand même, n'a pas eu un rôle prépondérant dans ses choix de vie, notamment dans ce choix de tour du monde ? Moi, je pense que oui. En fait, quand même, le trouble bipolaire de Solal, le met de toute façon en marge de la société. Quand il est dans une phase basse, par exemple, il est plus ou moins reclus chez lui et ça peut durer plusieurs mois, donc il se coupe du monde. Et quand il est dans une phase haute, alors là c'est l'inverse absolu, c'est-à-dire qu'il est complètement stimulé par les relations sociales qu'il multiplie, mais en fait ce sont souvent des relations sociales qui sont pas très construites, c'est-à-dire qu'il dit je suis une mouche, c'est-à-dire qu'il va de groupe en groupe, il se balade et puis finalement il peine à construire des choses un peu pérennes. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans une phase haute, il s'affranchit des normes sociales. Et donc, finalement, même quand il est entouré de plein de monde, même quand il est très excité, qu'il a besoin comme ça de parler, de rencontrer des gens, ben finalement, il est peut-être pas vraiment avec nous non plus. Donc, et puis voilà, ce tour du monde à pied, c'est aussi en quelque sorte une réaction, même inconsciente en fait, à cette maladie, parce que elle le rend. En fait, il était plus capable ou pas capable d'avoir un emploi stable, par exemple. Mm. Et donc, la vie en société, en France en tout cas, était compliquée.
Oui.
Et donc, le départ, en fait, est une voie qui s'est imposée naturellement.
Le départ s'est imposé parce qu'il ne pouvait plus vivre en France à cause de sa maladie. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très poétique dans ce départ-là. Mais pour vous, c'est une fuite.
Ah non, pas du tout. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, moi, je vois aussi quelque chose de poétique dans ce voyage. Et puis, en fait... Quand il a eu cette idée qui lui est venue spontanément, comme mon idée d'écrire le bouquin sur lui, ça lui est venu comme ça un soir en Suisse. Personne ne l'a perçu comme une espèce de tentative de fuir le monde. Au contraire, tout le monde l'a perçu. Enfin, je veux dire, quand je dis tout le monde, c'est moi, c'est ses parents, c'est ses proches, et puis lui-même. Ça a été perçu comme une excitation, mais très saine. C'est-à-dire vraiment, c'était enthousiasmant comme projet. Tout le monde l'a vu avec un regard très, très positif. Donc non, c'est pas une façon de fuir le monde. Mais malgré tout, c'est aussi un cheminement naturel et la bipolarité a son rôle dans ce choix, quoi.
Et en vous lisant, en tout cas, moi j'ai eu le sentiment que cette errance-là, en tout cas, elle vous a fasciné, parce qu'il devient aussi un personnage de roman d'aventure à un moment donné, Solal, à travers ce tour de l'Europe. Donc elle vous fascine, mais en même temps, elle vous inquiète. J'ai eu le sentiment qu'elle vous avait révélé à vous-même certains désirs ou certains rêves, comme si Solal avait en même temps été un miroir. Vous passez beaucoup de temps à le décrire et à le suivre, mais on a l'impression d'en apprendre beaucoup sur vous également quand on lit ce roman.
Oui, je croyais que, en fait, pour essayer de décrire Solal de la façon la plus fine et précise possible, forcément, par moments, j'ai projeté un peu de moi sur lui. Et en fait, étant donné que j'essayais de m'imaginer comment j'aurais pu ressentir les choses à sa place... Enfin, de fait, il y a une sorte de miroir, effectivement, qui s'est mis en place. Est-ce que c'est une... Alors, évidemment, j'ai de l'admiration pour Solal, pour autant, et puis je le dis dans le bouquin, je serais incapable de faire ce qu'il a entrepris. Oui. C'est-à-dire que oui, je crois qu'il y a une forme d'universalité dans ce rêve-là de faire le tour du monde à pied. C'est un peu un idéal absolu, quoi. Je veux dire, qu'on aime voyager ou non, il y a quelque chose de romanesque et de fantastique qui laisse pas indifférent, quoi. Pour autant, moi, je pense pas que je pourrais faire ça, quoi.
Alors, je vous ai demandé de nous choisir un passage en lien avec une anecdote personnelle. Je vous laisse nous le lire avant de nous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Louis Vandel, c'est à vous.
Un avion passe haut dans le bleu, vierge de nuages. Cette forme blanche, qui avance à peine, est aussi une image de spleen. Mais il donne à espérer. Il donne à espérer car ce n'est pas un plan figé. Et si Solal songe aux gens à son bord, qui regardent par leurs hublots les entremêlements des routes scindant les champs, et s'il pense à tous les ailleurs, même les plus urbains et gris, vers lesquels ils sont peut-être conduits, il se sent gagné par un besoin de mouvement. Le fuselage de l'avion prend différents reflets d'or selon sa position et son inclinaison. Il renvoie à Solal la vision de tous les lieux que le soleil assomme, rase ou laisse dans de paisibles ténèbres, en d'autres points de la Terre. Alors il sort peu à peu de cet état hors du temps. Car ces tableaux d'autre part, il imagine à la vue du point blanc disparaissant, lui offre quelque chose à vouloir dès maintenant. Des envies diffuses reparaissent, et tout semble un peu moins terne. Plus il pense à ces endroits mystérieux, plus son goût pour les choses simples revient. C'est maintenant un désir inextinguible de se lever, celui de l'enfant qui a trop dormi au lieu de profiter d'être éveillé, qui l'étreint et l'anime. Il se redresse puis s'assoit au bord du lit, l'ambiance de sa solitude dans son appartement à l'étranger lui est synonyme d'une indépendance enchanteresse. La disparition de toute pression, de sa culpabilité liée au travail, lui fait considérer sa liberté avec un enthousiasme renaissant. Une impression d'inconnu creuse une boule délicieuse dans son ventre, celle d'un trac envoûtant, d'un formidable appétit d'aventure. Tout à coup, le monde recèle à nouveau d'étranges symboles de joie. Des concepts anodins rejaillissent d'un passé enfoui, ils rouvrent tour à tour les portes d'autant de souvenirs oubliés qui font renaître une excitation très singulière de l'aube de sa vie, quand chaque petit rien était une chose inexplorée, une découverte.
Merci pour cette très belle lecture, Louis Vandel. Pourquoi avoir choisi ce passage? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce passage du roman, justement?
Je trouve que c'est une sorte de synthèse du livre, parce que c'est un moment où Solal est donc en Suisse, après un énième échec dans un boulot qui lui plaisait pas, et puis en fait il vient de se faire plus ou moins virer, ou alors il a donné sa démission, et donc il n'y a plus rien, il n'y a plus de projet, il ne sait plus quoi faire. Et donc c'est ce moment où il se pose sur son lit, et puis il y a une sorte de spleen qui commence à le gagner. Et puis en fait c'est à ce moment-là que l'idée du tour de monde à pied lui vient. Voilà, dans ce moment qui est assez court, il y a plein de choses qui pour moi sont des piliers du bouquin, c'est-à-dire qu'on parle de lumière, on parle de mouvement, on a un semblant de spleen qui peut évoquer les phases basses,
oui.
Puis on a une sorte d'excitation qui vient, qui elle est un peu corollaire des phases hautes, donc voilà, je trouve qu'il y a une forme de synthèse dans ce passage, quoi.
Oui, de synthèse, et c'est aussi le moment de bascule, parce qu'il est tout seul dans cette petite chambre en Suisse. Moi, j'ai pensé un temps, je me suis dit, ça va marcher, ça va réussir ce travail qu'il a trouvé là-bas, et pas du tout. Et c'est un moment assez troublant, parce qu'on le suit au début, quand il a ce petit moment où il se dit, ben non, finalement, je vais pas rester, ça me plaît pas. Et il commence à divaguer, et ça, on l'a tous plus ou moins déjà ressenti. On peut s'identifier à ce moment-là, mais il y a quand même, on sent qu'il y a une bascule, on sent qu'il y a quelque chose de plus intense qui se prépare quand même.
Puis il y a quelque chose qui est aussi un symbole fort du livre pour moi, c'est cette espèce de toute puissance du désir de Solal, qui a quelque chose qui pour moi a à voir avec l'enfance.
Oui.
C'est-à-dire que Solal, à plein d'égards, est au monde comme un enfant de 25-30 ans, quoi, en fait.
Oui.
Ouais.
Mais comme un enfant, comme un adolescent, parce qu'il se met quand même beaucoup en danger aussi.
Oui, alors effectivement, il n'est pas enfant 24 heures sur 24, mais il y a parfois quelque chose vraiment qui... une sorte de naïveté poétique, et puis en fait, voilà, c'est la toute-puissance de son désir, c'est-à-dire le besoin de satisfaire ses besoins immédiats au moment où il les éprouve, quoi.
Mm.
C'est marrant, mais je le dis souvent, c'est Solal, par moment, c'est j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai sommeil, quoi,
oui.
Tout ça, et bah voilà, s'il a chaud, il va se baigner, s'il a froid, enfin,
c'est ça.
Et par moments, sa vie se construit comme ça. Une journée de Solal, c'est un peu ça, quoi.
Oui. Et dans ce passage que vous avez lu, il y a également votre désir de poésie, quand même, je trouve. On sent que vous avez pris plaisir, en tout cas, j'ai cette impression-là, que vous avez pris plaisir à aller vers une forme de contemplation aussi, à la fois dans la description des paysages ou du comportement, du caractère de Solal. Là, il y avait cette scène de solitude ici.
Mmh. Ouais, alors bah, j'ai. Il y a une part de sensibilité de moi aussi dans le bouquin. Effectivement, c'est pas un récit, c'est pas un écrit journalistique, c'est une forme qui, à mon sens, est romanesque, et donc voilà, effectivement, il y a des passages où j'ai pris plaisir à essayer de creuser cette sensibilité que moi j'ai éprouvée vis-à-vis de cela, à essayer de la retranscrire de façon à ce que le lecteur lui-même puisse l'éprouver, quoi, d'une certaine façon.
Oui, et c'est un pari qui est assez réussi, parce qu'on voyage en même temps qu'on apprend. Il y a à la fois l'aspect document aussi, parce qu'on voit ce que c'est d'être dans la peau de Solal, mais en même temps, comme vous le dites, c'est un récit. On voyage et on se dépayse à travers ce récit. Et je trouve que cette contradiction, vous l'avez retrouvée en tout cas en tant que directeur de la publication de la lettre Zola, qui est un média d'information un petit peu particulier, car chaque mois, les abonnés ne reçoivent pas une revue, mais une lettre, où un jeune écrivain ou une jeune écrivaine raconte l'actualité. Et dans Solal ou la chute des corps, je viens de l'expliquer, vous avez également pris le parti de raconter une histoire vraie sous la forme d'un roman. Comment on s'assure de ne pas travestir le réel quand on le met en récit? Comment on s'assure de raconter la bonne histoire?
Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette forme d'obsession pour la littérature du réel, voilà, c'est une entreprise qui me fascine depuis un moment maintenant. Tu as dit en introduction que ça faisait un moment que j'avais lancé des projets de presse et de littérature. Et donc ce croisement entre le réel, le vrai et la forme romanesque ou la forme littéraire est un truc qui me fascine et qui me semble en fait être vraiment Enfin, il y a un intérêt, quoi. C'est-à-dire, et j'en parlais tout à l'heure à propos du bouquin, en fait, parce qu'effectivement, la lettre Zola, dans la forme, ressemble un petit peu à Solal ou la chute des corps. C'est-à-dire que on parle d'un matériau brut qui est réel, donc les faits sont... Le fil narratif, le fil rouge de ce qu'on raconte est tiré du réel, et pour autant, le langage est littéraire de telle sorte qu'en fait, si on prend une page au hasard, le lecteur est peut-être pas censé deviner que c'est pas une fiction, quoi, en gros. Et voilà, en fait, je trouve que c'est un intérêt vraiment concret, quoi. C'est que, en fait, ça offre une lecture différente du monde. Donc voilà, au lieu de se plonger, par exemple, dans un écrit universitaire sur la bipolarité ou dans quelque chose de scientifique ou dans un texte journalistique, l'approche littéraire et sensible offre un autre éclairage, c'est un autre angle, en fait. Voilà.
C'est complémentaire.
Absolument, oui. Alors, évidemment, c'est... Et la lettre Zola, par exemple... absolument pas vocation à remplacer le monde ou Libération, mais c'est, moi je trouve que c'est effectivement complémentaire parce que, bah, je sais pas, quand on raconte par exemple là le numéro 3 d'Abigail Assor, il raconte l'histoire d'une psychologue qui travaille dans la police,
voilà,
et oui, qui reçoit des policiers bah, en situation de trauma parce qu'ils ont fait usage de leur arme par exemple, hein. Cette psychologue elle-même à cause des pressions qu'elle ressentait dans l'institution, a fait elle-même un burn-out. Et donc ce récit est prenant parce que voilà, il y a des péripéties, mais au-delà de ça, en fait, on va très loin dans la description de ce qu'elle ressent, et donc bah, ça offre un éclairage qui est vachement différent de ce qu'on peut lire sur la police. Enfin, donc voilà, ce regard-là, il me semble effectivement être complémentaire de ce qu'on peut lire ailleurs, et voilà, l'intérêt concret, c'est que c'est prenant, et puis comme on va loin dans le détail, ben voilà, ça offre aussi voilà, ça offre des descriptions peut-être fines de ce que ça peut être, quoi, de travailler dans la police ou au Resto du Cœur. Oui. Voilà.
Et en parlant d'aller dans le détail, d'aller vers des explications justement plus fines, est-ce que c'est ça qui permet de passer de la voie du reporter, du grand reportage ou de l'enquête au long cours, à la voie du narrateur, au texte littéraire ? Parce que concrètement, comment ça se passe ce travail ?
Alors moi je pense que c'est avant tout une différence de retranscription, c'est-à-dire que la façon d'aller chercher le matériau brut peut être très similaire. Là je pense à... par exemple, à Mathieu Palin, qui a écrit le numéro 2 de la lettre Zola sur les Restos du Cœur, finalement, il a conduit une sorte de... Enfin, c'est pas une enquête, parce qu'il n'y a pas de scoop derrière, mais il a conduit l'écriture comme un reportage. Il s'est rendu sur place, il a interrogé des gens. Donc, la récolte de l'information peut se faire, en fait, d'une façon qui est très similaire. C'est la question du langage qu'on emploie derrière pour la retranscrire qui diffère. Et donc, voilà, la ligne éditoriale de Lettre Zola, c'est des histoires vraies, mais avec un langage le plus littéraire possible, creuser les personnages, essayer de construire l'histoire même avec des fils narratifs et des codes de la littérature qui permettent de faire en sorte qu'on ait envie de se plonger dans ces histoires, quoi.
Oui, parce qu'on a envie de s'y plonger. Enfin, je trouve qu'il y a un enjeu d'attention aussi, de capter l'attention des lecteurs, mais j'ai le sentiment aussi que on peut dire ce qu'on ne peut pas dire forcément ailleurs ou dans un format journalistique. Est-ce que la fiction autorise plus de liberté, autorise à aller plus dans l'implicite ?
Alors c'est pas de la fiction, hein, c'est vraiment des histoires vraies. C'est le langage de la fiction, oui, employé pour raconter le réel. Et ouais, effectivement, je crois que ça autorise plein de choses parce que ce qu'on s'autorise par exemple, c'est des partis pris forts, y compris sur la construction, enfin sur la structure des textes. Par exemple, le premier numéro de Blandine Rinkel, qui raconte en filigrane la relation qu'elle a avec sa mère, elle raconte cette relation-là à travers des échanges de textos. Et donc, en fait, le texte lui-même est composé parfois de paragraphes classiques où Blandine est la narratrice, et puis après, de dialogues où on a ferré à gauche les messages de sa mère et ferré à droite les messages de Blandine. Donc la structure même du texte, en fait, est très libre. Et donc évidemment, ça permet en fait une forme de créativité qui, à mon sens, nourrit l'intérêt pour le sujet.
Et oui, je précise juste, effectivement, c'est pas des fictions, c'est des histoires vraies qui sont mises en récit.
Effectivement, c'est complètement hybride, et donc c'est aussi le but qu'on se perde un peu, quoi.
Oui, c'est ça, oui, ouais. Oui. En tout cas, c'est un très beau média. Je peux que vous conseiller de vous y abonner, notamment pour faire vivre la presse indépendante. Quelques questions hors sol, rapides, pour finir l'interview. Est-ce que votre premier roman vous a donné envie de devenir écrivain ?
Ouais, alors je suis pas encore tout à fait à l'aise à l'idée de dire que je suis écrivain ou que je vais devenir écrivain. Je sais pas, enfin, je pense que c'est normal quand on vient juste de publier un premier livre. Mais très clairement, ça m'a donné envie d'écrire, ouais. Donc c'est un bouquin que j'ai mis à peu près deux ans et demi à écrire. Et surtout, ce que j'ai fait là pendant ces deux ans, c'est ce que j'ai préféré faire, quoi. Donc là, en ce moment, j'écris une bande dessinée.
D'accord.
Et puis j'espère qu'après, il y aura un autre roman.
Vous êtes plutôt rêve ou réalité ?
Bah, pile poil entre les deux, là, parce que vraiment, cette espèce d'obsession pour la littérature du réel, ça se trouve vraiment à mi-chemin entre le rêve et la réalité, donc...
Plutôt Sylvain Tesson ou Émile Zola ?
Tesson.
Tesson, ah oui, ouais. Malgré tout.
Bah ouais, et puis en plus, il y a du Tesson dans Solal, et réciproquement, il y a du Solal dans Tesson.
Ouais, exactement.
Hein, parce que Solal, on l'a pas dit, mais il a fait une chute qui a fait lui coûter la vie,
oui.
Il se lance sur un tour du monde à pied, c'est une histoire qui est assez similaire de celle de Sylvain Tesson.
Tout à fait. Enfin, dernière question en parlant de Solal, est-ce que Solal va bien ?
Solal va bien, il est repassé à Paris... il n'y a pas très longtemps, et il était plutôt en forme. Alors, il sortait d'une phase un peu gros chat, c'est-à-dire une phase...
Une phase gros chat.
Sa mère appelle ça comme ça, c'est les phases un petit peu basses, quoi.
D'accord.
Mais il était plutôt stable, et là, il est reparti s'installer quelques mois au Cambodge. Et en fait,
pour un tour du monde aussi, ou c'est...
Alors non,
d'arrivée.
Il arrête le tour du monde à pied.
D'accord.
Parce qu'il a fait une phase haute assez violente en Thaïlande... Son père l'a rapatrié en France et après, en fait, finalement, il a décidé de ne pas repartir. Mais je suis très optimiste et même réjoui parce qu'il a décidé de prendre des médicaments. Il avait refusé parce qu'il avait peur que ça le rende amorphe. Et puis, il disait, prendre des médicaments, c'est la défaite. Bon, et puis, il s'est rendu compte que c'était une connerie. Et je trouve que c'est très sage et je trouve que c'est vachement bien qu'il ait pris conscience qu'en fait, la solution médicamenteuse existait,
oui.
Qu'elle pouvait l'aider. Et donc, moi, je suis assez persuadé qu'avec les médicaments, les jours les plus heureux de sa vie sont devant lui, quoi.
En tout cas, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Ouais. Au Cambodge, du coup, si
voilà,
j'ai bien compris.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Merci beaucoup, Louis Vandel.
Merci.
Merci pour ce bel échange. Je rappelle que votre premier roman, Solal ou la chute des corps, vient de paraître aux éditions du Seuil. Je ne peux que vous encourager à le lire et à vous abonner également à la très belle lettre Zola pour faire vivre la presse indépendante. On ne le dira pas assez. Je remercie Gabriel Bayer à la réalisation et Héloïse Robert pour le générique de cette émission. Quant à nous, Chouquette du monde entier, on se retrouve le 22 juin avec l'écrivaine Isabelle Sorante. D'ici là, passez un bon week-end et menez une belle vie de Chouquette. À très vite.